Amis de Radio Occitanie et de la poésie, bonjour, les poètes, une émission de Claude Bretin et Christian Saint-Paul. Alors, nous vous l'avions promis la semaine dernière, nous avons de nouveau, ici, dans les studios de la rue d'Assali, à Toulouse, nous avons Pierre Maubé. Pierre,
bonjour.
Merci beaucoup d'être revenu à Radio Occitanie.
C'est toujours une joie. Il y a des lieux où on se sent bien. Et celui-là en fait
partie. Nous en sommes heureux. Si tu le permets, je vais faire une petite annonce d'un livre dont nous parlerons l'année prochaine, puisque nous arrivons à la fin de l'année 2025. Il s'agit du livre de Jean Sacré. Est-ce que tu connais Jean Sacré?
Oui, bien sûr.
Jean Sacré, qui vit en Occitanie, puisque, après avoir vécu pendant très longtemps aux États-Unis, enseigné aux États-Unis, il est maintenant, depuis quelques années, à Montpellier. Donc à Montpellier.
Je l'avais croisé il y a bien longtemps, 30 ans peut-être, place Saint-Sulpice, au marché de la poésie. On avait échangé un petit peu, entre autres sur la Vendée qu'il connaissait très bien.
Oui,
il est originaire de Vendée.
Absolument, oui.
Voilà.
Il est né dans une ferme de Vendée, justement. Oui.
Absolument.
Oui, absolument. Il a beaucoup marqué.
Oui.
Il en parle très très bien, très très bien. Voilà. Jean Sacré, donc, il vit actuellement en Occitanie, donc chez nous. Il a choisi Montpellier, parce que c'est quand même la ville où il y a un grand soleil, qui est une ville quand même très, très agréable. Et il est très heureux là-bas, Jean Sacré, qui est maître et jeu de l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, depuis quelques années.
Voilà. D'accord.
Et alors, qui publie, entre autres, « Des objets nous accompagnent » et, entre parenthèses, « ou l'inverse voilà. ». Donc, on retrouve là toute la verve et cet humour toujours élégant de Jean Sacré, et qui publie donc aux presses universitaires de Rouen et du Havre donc ce petit livre, un livre délicieux, qui est quand même assez abondant, puisqu'il y a plus de 165 pages dans ce livre, et qui ne coûte que 13 euros. 13 euros, donc, pour...
C'est une affaire. Voilà. Précipitez-vous, auditeurs.
Nous accompagne, ou à l'inverse.
C'est un titre qui ne m'étonne absolument pas, parce que Jean Sacré, c'est le plus matériel, si j'ose dire, de nos poètes.
Oui.
Il parle de l'odeur des sillons d'un champ labouré, ou la texture du bois de buis, ou de les feuilles du houx, enfin, c'est vraiment, il n'est pas du tout dans l'abstrait, dans l'éthéré, dans les mystères de l'écriture évanescente et tout, il est à l'opposé de ça, et tant mieux.
Oui. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, d'abord tout simplement parce qu'il est né dans une petite ferme vendéenne, et voilà ce qu'il dit sur ce livre. Des objets nous accompagnent, ils nous donnent du vocabulaire, nous invitent à fréquenter des dictionnaires et d'autres livres. Il y a leur forme, leur couleur, leur matière. Il y a le souvenir de les avoir rencontrés. Ils furent ailleurs dans des histoires de vie que nous ignorons, et les voici maintenant chez nous, devenus familiers, tout en restant étrangers souvent, même ceux qui furent les plus intimement liés à la maison d'enfance. Nos mots de leur côté, nos éventuels poèmes, tentent de les accompagner à cet événement sans doute. Tout se passe dans une amitié pour leur plus que probable indifférence. On ne sait plus si les poèmes écrits nous sont donnés par ces objets ou par notre désir d'écrire un poème en les regardant. On finit par ne plus voir qu'un poème, un nouvel objet d'écriture. On peut s'en saisir et recommencer à s'interroger. Voilà ce que dit Jean Sacré dans
c'est
ce
magnifique.
Livre « Des objets nous accompagnent », voilà, dont nous vous parlerons en 2026. Mais je voulais déjà le signaler, parce que c'est aussi une très bonne idée de cadeau, bien sûr. On peut lire peut-être un petit paragraphe. J'avais choisi le rasoir, par exemple. Il coupe une dizaine de fils d'un coup de son couteau de rasoir. Phrase que je relève dans un article sur le métier à tisser vertical berbère. L'outil que j'ai devant les yeux est une longue lame épaisse, affûtée d'un côté sur presque toute sa longueur. La lame est fichée sur un manche court, à la mesure d'une pomme, et porte sur une des faces le dessin d'un serpent à la langue tirée. Un rasoir, m'a-t-on dit. On a de la peine à le croire. L'affûtage sans doute est émoussé, mais j'imagine difficilement que son propriétaire berbère ait pu se raser avec l'outil comme le faisait mon père, dont je garde le coupe-chou replié dans son manche, une châsse en ébonite noire, sur laquelle il a gravé son nom avec un S au lieu d'un serpent. Le rasoir du père m'a longtemps fait peur, et quasiment encore. Je préfère tenir dans la main celui du paysan berbère, l'impression presque d'empoigner une serpe quand j'allais justement. Matin de bonne heure et pas chaud qu'il faisait, couper les choux au champ d'homme ou sur l'Aubrail. Voilà. Alors on retrouve donc ce jambe sacré qui est très observateur des choses très concrètes, très matérielles, et qu'il arrive par la langue à faire de cela quelque chose qui devient effectivement l'objet du merveilleux et du poème.
Voilà. On pense bien sûr au parti pris des choses de voilà, Francis Ponge. Mais ça a quelque chose de plus charnel, de plus la mémoire s'en mêle, et puis ce sont des objets qu'on prend en même, ce qui n'arrive pas ou très peu dans le parti pris des choses. Et tu disais que j'aime sacrer à les pieds sur terre, et je pense que en inversant à la façon du titre de ce livre, on pourrait dire qu'il a de la terre sous les pieds, c'est-à-dire une matérialité très ancienne et très travaillée par l'homme et qui ne le quitte jamais.
Oui. Et qui transforme par la langue. Voilà,
absolument,
par la langue
absolument.
En objet d'art.
J'aime ça, on pourrait le définir comme un laboureur du langage.
Oui, exactement. Oui, exactement. Bon, alors, un autre laboureur du langage, c'est Pierre Maubé. Et on va parler, Pierre Maubé, alors on a parlé la semaine dernière de deux derniers recueils, Saison lente, très très beau recueil, on va peut-être redire un mot de ce magnifique recueil, donc paru aux éditions Voix d'encre, avec une postface de Michel Fink, qui en a saisi donc les quatre parties, elle a fait l'exégèse de ce livre en le structurant en quatre parties. Il y a, par contre, quand on regarde la table des matières de ce livre, il n'y en a pas quatre. Il y en a quatre. Devant les choses inconnues, dans l'espace de chaque instant, sans nom et sans vigueur, et toujours aux frontières.
L'éditeur, Alain Blanc, m'a fait remarquer que ces quatre titres de partie, mises à la suite l'une de l'autre, forment un poème. Ce n'était pas du tout volontaire, il me l'a fait découvrir, et pourquoi pas.
Oui, effectivement. Surtout maintenant dans les poèmes minimalistes.
Oui.
Voilà.
Disons que ça forme le début d'un poème.
Est-ce qu'on pourrait peut-être commencer cette émission par lire, parce que vraiment ce livre me semble être quand même fondamentalement important, quand même.
Je te remercie.
Est-ce qu'on peut revenir un peu là-dessus, s'il te plaît, et lire quelques extraits?
Christian, alors, tu demandes ça si gentiment et avec tant également de force.
Alors, il y a ce que tu nous disais la semaine dernière, c'est-à-dire que ce livre est écrit à la deuxième personne. Tu vas parler de toi à la deuxième personne.
Il est écrit pour chaque lecteur, et j'aurais tendance à dire par chaque lecteur. J'aimerais que chaque lecteur, dans sa lecture, recrée ses poèmes, recrée ce recueil, en se demandant, suis-je concerné? Est-ce que ce tu, c'est moi? Et puis, il ne faut pas oublier aussi que tu, c'est le participe passé du verbe taire.
Ah oui.
Se taire. Donc, le silence est au creux de chacun de ses poèmes.
Voilà, je te laisse choisir l'extrait que tu veux.
Eh bien, celui-ci. Tu marches à perte de vue dans la perte de toi et du monde. Tu es le nu et le dépossédé, le deux fois veuf et deux fois orphelin, l'assoiffé, l'affamé, le voyant et l'aveugle. Tu es le sans maison, le sans horizon, le désirant. Tu étais aveugle, tu l'es redevenu. Ta vue n'aura duré que le temps d'une brûlure.
Terrible.
Ah, c'est peut-être lucide, je ne sais pas.
Tu parles de la poésie aussi. Page 62.
62. Allons-y, je me précipite. Ah, je vais la retrouver. Oui, bien sûr, bien sûr. Je me lance, je le lis, je le propose aux oreilles des auditeurs. La poésie ne console de rien. Elle est ce vin mauvais qui pourrit les haleines, ce vinaigre d'étoiles broyé entre tes doigts lors de la vendange d'un charem rouge sang, ce résidu d'astre coincé entre les dents, les lèvres de tes plaies se colorent de sang, pressentiment pourtant d'une plénitude de vie, d'une réconciliation proche et lointaine, aimante et mystérieuse. Le poème veut advenir. Il tourne comme une bête maigre dans sa cage. Ses mots percent une neige persistante. Il cherche le soleil d'un regard, l'asile d'une voix.
Donc on regarde sur le poème et bien entendu sur le celui qui écrit le poème.
Hein, oui, sur la naissance du poème, oui, c'est-à-dire que au commencement était non pas le verbe, mais une chair et un sang muets. Mais malgré tout, de cette chair, de ce sang, de cette salive, naît quelque chose d'irrépressible, d'irrésistible, qui est d'abord un marquement, une mélodie, puis des mots, et ces mots forment des vers, comme des nénuphars à la surface du marécage qui finissent par former quelque chose de visuellement réuni et cohérent. Et c'est un poème à la fois, enfin, de prose-poème, à la fois désespéré dans son début et espérante, c'est-à-dire, c'est une prose-poème qui essaie d'accompagner la naissance du poème, sa venue au jour et son cheminement vers le jour.
Il cherche le soleil d'un regard,
voilà.
L'asile d'une voix, donc il va peut-être trouver ça.
Ce qui veut dire aussi que le poème naît forcément dans la solitude, mais ne s'épanouit que dans la rencontre. Et le poème n'est pas, le poète n'est pas solipsiste, il n'est pas sur une île déserte loin de tout, alors à quoi bon? Il ne... Ces mots ne peuvent vivre que si le lecteur et l'auditeur les font vivre.
Oui, voilà. C'est le lecteur, en définitive, qui fait le poème. Parce que sans la lecture du poème par l'autre,
absolument.
Il n'a pas de sens.
Le poète propose, et le lecteur, l'auditeur, je tiens beaucoup, aussi dispose.
Oui, dispose, oui.
Il peut rejeter ce poème-là, ou il peut le faire sien.
Oui, il peut le faire sien, et y donner un sens aussi qui est le sien. Il peut se l'approprier totalement.
Oui, il est très éloigné du sens que le poète a voulu ou pas
le
voulu,
vrai poème,
ou s'imagine.
C'est celui qui échappe au poète, quoi.
Oui, bien sûr. Le poème suit son chemin, qui est un libre chemin.
Qui parle de ça, Michonny qui dit « Je passerai ma vie à ressembler à ma voix ».
Ah, c'est magnifique.
C'est extraordinaire.
Oui, je dirais à tenter de voilà. ressembler oui. à ma voix, parce que je ne suis pas sûr du tout qu'on y arrive.
Oui. Est-ce que tu fais ta démarche aussi? Le poème chez toi, il naît aussi d'une nécessité impérieuse.
Ah, mais la nécessité, voilà. oui. Il n'y a pas poème impérieuse. S'il n'y a pas nécessité. Et ça se sent, tu le sais très bien, Christian, à la lecture de certaines pages, on se dit, ça c'est un jeu, ce n'est pas un poème. C'est une démonstration de virtuosité, un oui. peu comme un jongleur. Regardez comme c'est beau, regardez comme j'ai un doctorat de lettres, j'ai bien oui. étudié Mallarmé, etc. J'aime beaucoup mon Mallarmé, mais ce n'est pas le problème. Mais c'est la théorie et la virtuosité précèdent et même remplacent la parole poétique. Et je dois dire que je ne suis pas très sensible à ça. Et pour moi, un poème n'est poème, n'advient que s'il laisse pressentir et ressentir au travers du vers, la nécessité de faire exister ce vers. Donc, alors, voix ou tentative de voix, mais de toute façon, il faut que le besoin ardent soit là.
Voilà, la nécessité. Voilà.
Exactement.
Il naît toujours d'une nécessité impérieuse. Dont on ne peut pas résister, quoi. Tu le dis, hein, le poème veut advenir. Il tourne comme une bête maigre dans sa cage. On sent bien là quelque chose qui doit sortir. Oui. Il faut qu'il sorte de ce... Bon, tu dis, dans la cage. C'est-à-dire qu'il est emprisonné, quelque part. Hein, emprisonné dans l'inconscient, emprisonné dans la parole.
Qu'il doit sortir. Je dirais presque dans le corps. Oui. La cage, ça peut être... La cage thoracique.
Oui, ah oui.
Voilà. Oui. L'air qui reste dans la cage thoracique, il ne sert à rien. Oui. Il ne vit vraiment que s'il est expiré. J'aime bien ce mot, expiré. Inspiré, enfin, que s'il y a un souffle intérieur et extérieur.
J'aimerais bien qu'on finisse aussi sur le poème, si tu veux bien, page 55.
Allons-y.
55, où tu parles d'une étrangère. Voilà, on va.
Ah.
Voilà.
Tu vas nous dire. Je ne sais pas si je pourrais en dire grand-chose de ce poème-là, mais allons-y. Allons-y. Voilà.
On t'écoute.
Il parle tout seul, enfin, je l'espère. Ouais. Il n'a pas forcément besoin de mon commentaire.
Alors, c'est
55, donc. C'est pas évident de le lire. Mais allons-y, je me lance. Une étrangère est venue habiter aux confins de ta gorge, au fond, près de l'oreille droite. Imprévue, timide, peu à peu, elle a pris ses aises, s'est lovée dans la paroi tendre de ta joue, à installer ses petites habitudes. C'est pas désagréable, non. C'est poli, prudente, à peine perceptible. Peu à peu, doucement, elle s'affirme, s'enfle, raréfie ta salive, empuantit ton souffle, crispe tes sourires, ralentit ta voix, parasite tes appétits, présente. Si présente, tellement là, ici et maintenant, étrangère à croissance lente, à volonté persistante, elle n'est pas belle, ce qui ne te surprend pas. Tu n'as jamais cru que la mort l'était.
Bon, tu as compris donc qu'elle est cette étrangère.
C'est une étrangère, une squatteuse en quelque sorte, mais qui intimement devient une partie de celui qui écrit ça.
Oui.
Alors, j'ai toujours beaucoup insisté sur le fait que mes recueils ou chacun de mes poèmes n'avaient rien d'autobiographique. Plusieurs, dans telle ou telle revue, ont écrit, bon, Pierre Maubé, est malade, Pierre Moubet ne supporte pas de vieillir, etc. Ah oui. Non, ce ne sont pas des bulletins de santé. C'est, j'espère, bien au-delà de ça. Mais cette page-là, c'est ce qui se rapprocherait le plus de quelque chose de vécu, d'intime. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails, ça n'a aucun intérêt. Mais de quelque chose qu'on pourrait appeler une tumeur et qui s'installe et qui croît petit à petit. Et comme par hasard, près de la gorge, qui est le lieu où passe l'air, où passe le poème. Mais là aussi, c'est écrit à deuxième personne, c'est-à-dire que j'espère bien que chaque lecteur va s'interroger, et moi, est-ce que je n'ai pas un habitant ou une habitante dans les profondeurs de mon corps, et est-ce que c'est étranger ou est-ce que c'est une partie de moi? C'est toute la question. Étranger ou familier.
Oui, mais il y a une métaphysique souveraine dans ce texte. C'est un texte métaphysique par... Et c'est un poème d'une haute spiritualité aussi.
Alors, peut-être, je t'écoute avec beaucoup d'attention, mais une spiritualité incarnée.
Oui.
Incarnée, c'est-à-dire que la mort est quelque chose d'à la fois très, très hors du monde, puisque un mort est quelqu'un qui a franchi la frontière, même s'il parle de temps en temps, comme j'ai essayé de le faire entendre dans le recueil Nulle part, qui avait reçu le prix de la revue Friche.
Ah oui.
J'en ai été très heureux. Le prix Trovador.
Trovador.
On est sûr.
Oui, oui, oui. Oui.
Occitania, animé par Jean-Pierre Tuya.
Oui,
qui était un garçon remarquable, même si je ne l'ai pas absolument beaucoup rencontré. Donc, le recueil Nulle part, prix Trovador, donnait la parole aux morts. Il est épuisé. Il est mort peut-être, mais j'espère bien qu'il va ressusciter. Il est question de le rééditer, je n'en dis pas plus.
Oui.
Et j'ai toujours été fasciné sur le fait que la mort, le territoire, le pays de la mort, nous est frontalier et nous est même intérieur.
C'est pour ça.
Il ne faut pas...
C'est ça la spiritualité. C'est d'avoir intériorisé... parce que la mort reste quelque chose de très métaphysique.
Oui. Ouais. Pour moi, spiritualité, il y a le fait de se rapprocher d'une lumière, même si on ne la connaît pas.
Oui.
Ou de la noche oscura, la nuit obscure de Saint Jean de la Croix. Mais on la trouve, je trouve, davantage dans les recueils de Gilles Baudry.
Oui, bien sûr, mais
très
définition, c'est au moins une poète.
Voilà, et ou de Christian Bobin, c'est-à-dire ce sont ceux qui ont avancé beaucoup plus que moi sur le chemin de la lumière. On trouve également cette présence-là dans les très beaux psaumes, les recueils de Gérard Beauchaudier, il y en a trois. Qui s'intitule Psaume, je ne sais plus quels sont les titres exacts de ces trois recueils, mais qui sont riches de cette spiritualité, mais également de cette recherche incessante. Ce ne sont pas des recueils de béatitude, ce sont des recueils d'incertitude et certitude à la fois. On connaît la phrase de Pascal, tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais déjà trouvé. Gérard Beauchaudier est dans cette démarche-là. Moi, j'en suis bien loin, je cherche simplement à exprimer cette part d'ombre qui est au fond de nous, de chacun de nous.
Qui est dans l'angoisse humaine, qui est la définition certainement aussi de l'angoisse humaine, de sa finitude, tout simplement.
Oui, également dans le sursaut peut-être de la révolte. Alors bon, pour le coup, la révolte et la...
Ça c'est comme bien.
Le fait de se lever contre n'est pas présent dans cette prose poème-là. Oui. Elle est peut-être dans d'autres, mais néanmoins... Il ne faut pas être uniquement et entièrement victime. Il ne faut pas être dépossédé de soi-même. Il faut lutter. C'est la lutte de Jacob avec l'ange. Et Jacob est ressorti de cette lutte boiteux. Il n'a jamais pu marcher normalement. Mais il s'est battu.
Il s'est battu, oui. Oui. Voilà. Et oui, parce que la poésie toujours est aussi quand même... Un acte de résistance aussi, il y a ça.
Oui, alors on ne sait pas contre quoi ou contre qui on résiste.
À faire du destin aussi, quelque chose d'autre.
La vie, c'est un voyage difficile et claudiquant en boîte, que ce soit avant ou après la lutte avec l'ange, mais on continue. Dans chacun de mes recueils, il y a plusieurs poèmes qui contiennent le mot s'obstiner, le verbe s'obstiner et continuer. Et le refus de se décourager, ça peut être dérisoire, ça l'est peut-être. Mais voilà, comme un voyageur qui marche dans la neige sous les arbres noirs, n'est-ce pas, le noir et le blanc, on en revient toujours là, il a les pieds gelés, il ne sait pas si au bout de la neige ou au sortir de la forêt, il y aura quelqu'un ou quelque chose qui l'accueillera, mais il continue.
Michel Lefebvre, qui a écrit la postface, parle de ça. Que l'on ne fasse pas, bien sûr, pour autant de la poésie de Pierre Maubet une poésie religieuse, si ce n'est au sens étymologique, issu de religare, relié, inféodé à une religion. Mais c'est une poésie qui, au contraire des essais de Sioran, propose un travail verbal tendu vers une lente transgression positive. Voilà. C'est ce que je voulais, avec ce texte, qui est un texte qui peut paraître très noir et très... Oui, faire ressortir qu'il y a tout de même cette fenêtre qui reste ouverte dans le poème.
Sioran a exprimé, génialement, on peut le dire, l'enfermement de l'homme et le fait que tout espoir lui soit refusé. Je ne suis pas capable de ça, je ne sais pas si c'est un aveu de faiblesse ou la proposition d'autre chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le chemin pour tenter de sortir de tout ça. Je dis bien tenter, mais je crois qu'il faut, un pas après l'autre. Après, on arrive ou on n'y arrive pas. Gilles Bourly y est arrivé, Gérard Bouchoyer également, d'autres, dont moi, on continue à marcher, que ce soit dans la boue ou dans la neige, avec même pas l'espoir, même pas l'espérance, mais avec à l'esprit la possibilité d'arriver à quelque chose ou à quelqu'un.
Donc, pour en finir avec saison lente, et tu cites aussi, c'est très sympathique, tous les poètes que tu as que tu as croisés,
qui m'ont inspiré,
voilà, qui t'ont inspiré, etc.
Pas seulement les poètes, il y a également oui. bon, quelques personnes, parce qu'on oui. ne vit pas, on ne vit pas oui. uniquement de poésie, oui. mais des gens qui, sans pratiquer de la poésie, sont néanmoins poètes dans leur façon oui. de vivre. Mais enfin, il y en a beaucoup, et tu en as peut-être remarqué un, cher oui. Christian, bon, puisque, voilà. puisque tu fais partie de cette foule.
Bon, voilà, de Gérard Bourcholier que tu as...
Bien sûr.
Cité, bon, voilà. De Marc Montana, que tu as cité aussi, de Michel voilà. Fink, bien sûr.
Hein,
tu dis l'ébloui. Voilà.
Mais s'il te plaît, fais-moi le plaisir de oui. lire les quatre mots qui te concernent.
Alors, à Christian Saint-Paul, homme de parole.
Voilà, voilà homme de parole. C'est le titre oui, d'un de tes recueils.
Qui a été publié par quelqu'un qui s'appelle Bruno Durocher.
Ah oui.
Qui est le l'éditeur historique
le caractère,
donc, de caractère,
caractère voilà. oui.
et pour ceux qui sont intéressés par la vie de Bruno Durocher, vous pouvez regarder sur le site des Jeux Floraux Toulouse, vous marquez ça sur le moteur de recherche, vous arriverez au site des Jeux Floraux, et vous regardez, il y a une rubrique avec lecture, ce sont les lectures privées des académiciens. Et la dernière lecture, c'est une lecture que j'ai faite sur Bruno Durocher, alias Bronislav Brankovic. Voilà.
Je n'attendrai voilà. pas voilà. très longtemps avant d'écouter ça. C'est certainement passionnant.
Et maintenant, on peut le lire, parce que c'est intéressant que ces sociétés littéraires puissent s'ouvrir sur le public large. Quoi. C'est pas...
Bien sûr. Voilà.
Alors, Pierre Maubé, on va parler maintenant, si tu le veux bien, de ce recueil étrange, suivi de 11 Kadeshim pour Rose. C'est publié au cahier du Loup Bleu, la collection Les Lieux Dits, avec un dessin...
Non. Alors,
c'est l'inverse.
Excusez-moi de rectifier, oui, ce sont les éditions oui, Les Dieux Dits. De
collection cahier du. Voilà.
Et collection cahier du Loup Bleu voilà. qui doivent en être, j'espère ne pas dire de bêtises, mais à 200 œuvres bon, publiées d'auteurs très variés. Oui. Et le principe est d'associer, un peu comme chez Voidange, beaucoup même, un auteur et un graphiste.
Voilà.
Chaque graphiste doit. Doit s'exprimer sur le thème, l'image du loup bleu. Et tu l'as cité, effectivement.
Oui. Alors, Kadish, on sait ce que c'est un Kadish. Là aussi, on retombe oui. sur un thème qui n'est pas... bon, qui est un thème de mort, bien sûr. Hein.
C'est la prière, des, prière morts, des morts dans la religion, oui. la religion oui. juive. Et j'ai écrit ça en hommage à Rose Mendlinger, qui devait, je ne suis pas sûr de bien prononcer, qui a été assassinée à la sortie d'une synagogue en compagnie de 11 de ses co-religionnaires, et elle avait survécu au camp de la mort. Et la mort est venue la retrouver. Et aujourd'hui, enfin, dans ces jours-là, c'est malheureusement tout à fait d'actualité, puisque la bête immonde a encore mordu,
oui.
encore tué. Malheureusement, et je crois que le peuple juif est un peuple d'une vitalité extraordinaire. Bon, quoi que l'on puisse lui reprocher, bien sûr, et comment dire, les persécutions au cours des siècles dont ont été victimes... les juifs ne sauraient permettre, engendrer et encore moins excuser les massacres oui. actuels. Mais je me refuse à, bon, personnellement, à partager les morts, à les comptabiliser. Un mort est un mort. Bon, qu'il soit palestinien ou israélien ou juif, bon, partout dans le monde. Et en particulier lorsqu'il s'agit de Rose, qui serait certainement horrifiée par ce qui se passe en ce moment. Dans un certain rivage méditerranéen. Vieille Méditerranée, elle a vu bien des miracles, bien des merveilles, et également bien des horreurs. Vieille Méditerranée.
Donc ceci est la mémoire de Rose Malinger, qui a 97 ans. Hein.
Je peux peut-être lire, oui, ils voilà. sont très
Alors,
courts,
tu peux, voilà,
ces lire, poèmes-là.
Oui.
Ils sont... Il y a autant de poèmes que de victimes de ce massacre-là.
11 victimes.
À Pittsburgh. Oui, 11 victimes, oui, oui. 11 poèmes.
Alors ça, c'était en 2018, et on voit qu'on est toujours dans cette actualité-là, ce que tu viens
oui.
de dire. Hein.
Oui, oui.
C'est quand même terrible.
On est...
On t'écoute, Pierre. Ah, pardon.
Donc, ce Kaddish est écrit à la mémoire de Rose Malinger, qui a 97 ans, ainsi que 10 autres personnes, ont été assassinées parce que juives dans la synagogue de Pittsburgh le samedi 27 octobre 2018. Donc, 11 poèmes pour chacune de ces personnes-là. Sans qu'elle soit forcément nommée. Mais on en revient toujours à Rose, qui en poésie en plus, la rose est toujours présente, même si selon Mallarmé, elle est l'absente de tout bouquet. Rose est tombée, elle qui toute sa vie s'était tenue debout, fragile et forte comme une fleur de printemps. Kaddish. Tant de vie en toi, Rose, qu'ils ne pourront jamais te faire disparaître. Tu es l'homme en blanc de Goya, face aux soldats qui tirent. Skadish. Rose frêle, rose morte, rose forte, éternellement forte de toute la sève de la vie, face à la mort, face à la haine, face au mal. Skadish. Rose abattue après tant d'années, tant de matins où ses yeux s'ouvraient au soleil, tant de soirs où son corps accueillait la nuit, tant de jours, tant de nuits, tant de vie. Skadish. Rose, tu es le cri toujours vivant, celui du nouveau-né sorti du ventre chaud pour affronter la froidure du monde. Et y tracer son chemin chaud de vie. Kaddish. Rose, tu es le rire de la vie, le ventre chaud de sève, le regard lumineux offert à tous, le visage souriant, les mots d'accueil, la main ouverte aux autres. Kaddish. Rose, merci d'avoir vécu et de vivre encore, chaque fois qu'un de nous dira non au mal. Kaddish. Chaque fois qu'un de nous refusera de croire ce que les hommes sont inégaux, ce qu'ils ne peuvent pas vivre ensemble, ce qu'il faut en tuer certains pour le bonheur des autres. Kaddish. Car nous sommes semblables, Rose. Nous avons tous en nous le fiévreux désir de vivre et la peur rongeuse de la solitude. Kaddish. Nous avons tous en nous l'instinct de résister au mal, et si parfois notre peur l'étouffe, il reste présent, rougeoyant sous la cendre. Skadish. Rose, ta vie fut acte de résistance et de mémoire, et cette résistance, cette mémoire, ne finissent pas avec toi. Tu nous les lègues. Nous en faisons notre héritage. Nous en faisons notre force de vie. Kaddish. Voilà le mot qui scande chacun de ces poèmes. Le mot Kaddish mêle, je crois, la mort, bien sûr, et également la vie toujours présente et toujours résistante. J'aimerais aujourd'hui dédier ces 11 poèmes, d'une part Armand Abécassis, qui fut un immense philosophe et mystique juif, et d'autre part à Mahmoud Darwish, un poète palestinien, dont chaque poème est un cri de désespoir et d'espoir. Donc, comme il l'a dit si bien, les enfants palestiniens prennent dans leurs mains la terre et les cailloux de leur terre, de leur pays, et les jettent vers les soldats. Je crois que les massacres sont des deux côtés. Il y a des Juifs massacrés, il y a des Palestiniens massacrés, et puis il y a chacun de nous qui, malgré tout, essaie de vivre.
Oui, c'est bien ce que tu as dit sur Mahmoud Darwish. Il y aura en 2026, à l'Académie des Jeux Floraux de Toulouse, qui essaie maintenant, enfin qui depuis quelque temps va créer des événements de poésie, des animations de poésie au sein de l'hôtel de César où elle siège à Toulouse, de manière à ouvrir ces lieux au public toulousain, de le rendre au public toulousain. Il y aura une soirée où il y aura une poésie croisée de Mahmoud Darwish, donc poète, le poète palestinien national actuellement, oui, et Yehuda Amichai, qui est le poète israélien national aussi.
Voilà. Belle initiative.
Voilà, il y aura une lecture croisée, donc, et également une lecture croisée d'une femme poète juive et d'une femme poète israélienne. Voilà. L'un préfacé par Labi et l'autre par Michel Écart. Voilà.
Voilà. Bel événement.
Nous ferons ça bientôt et nous en parlerons bien sûr ici. Mais pour reprendre ton recueil étrange, et il commence par quand même le premier texte, c'est étrange.
C'est un recueil écartelé entre deux postulations, comme disait Baudelaire, l'horreur de la vie et l'extase de la vie. Alors, il y a en exergue une phrase d'Albert Camus que je trouve extraordinaire. Il parle d'un peintre qui meurt devant une toile blanche, mais il a tout de même écrit dessus, sur cette toile, un mot dont on ne saurait dire s'il était solitaire ou solidaire.
Oui.
C'est dans le recueil de nouvelles d'Albert Camus, L'exil et le royaume. Et je crois que la première partie du recueil étrange, c'est l'exploration de la solitude, et la deuxième partie, le Kaddish pour Rose, est l'exploration de la solidarité.
D'accord.
Alors, tu m'excuseras, cher Christian, mais je ne me sens pas capable de lire l'un des 13 poèmes qui constitue la première partie de ce recueil.
Ça a été très repris, ça, solitaire et solidaire. Hein.
Oui.
Hein, depuis le... Voilà.
Mais malgré tout, je n'ai pas hésité...
Je veux dire juste un texte aussi, si tu me permets. C'était pas celui-là, pardon. Étrange vie, tu es effort de chaque jour et renouvellement de la douleur et de l'ennui, la rouille irréductible, la peur naissant avec le jour, l'épuisement souillant mon souffle comme le vin aigre d'une vendange tardive. Étrange vie, boue grise sous un ciel, aux nuages agglutinés, glaise blême, vague blafarde, horizon inaccessible vers lequel mènent les routes inachevées, paysage menteur, chaque pas est dérisoire et inutile. Bon, on voit le ton effectivement
Là, pour le coup, c'est écrit à la première personne.
Oui.
C'est-à-dire que chaque texte s'adresse à la vie, lui dis-tu, mais celui qui parle dit je, dit mon, dit ma, enfin, s'assume à la première personne.
Oui. C'est ce que disait Michonik à propos de la vie. Hein. La vie rime avec la vie. Nous sommes tous des rimes vivantes qui cherchent à finir leur phrase.
Et la phrase est-elle finissable? Enfin, j'ai l'impression que le point final recule sans cesse.
Alors, autre recueil, Cette rive, il nous reste quelques minutes. On va, alors, on en a parlé, je fais une émission sur ce livre qui m'a absolument bouleversé, enthousiasmé. Est-ce que tu veux nous lire quelques extraits pour finir?
Oui.
Et puis
À commencer par le premier poème.
Oui, voilà.
C'est un recueil d'amour, on peut oser ce terme, qui commence par la fin de cette histoire, par une rupture. Et ensuite, peu à peu, se suivent les évocations, se reconstitue le chemin de cette histoire-là. Mais ça commence par la fin, qui était peut-être déjà là, dès le début. Amis, voici que vous m'interdisez de vous aimer. Il n'y a pas d'amour possible en pays de colère, et votre colère a créé ce pays, et ce pays désormais est le mien. Amis, voici le temps de notre désamour. Les vitraux de l'aube sont brisés, l'oiseau est orphelin de ciel. Ce qu'elle n'en avait son chant. Amis, notre passé n'est plus le vôtre. Vous avez choisi de le quitter, dédaigneuse de tout retour. Derrière vous, l'horizon se referme. Amis, je cherche mon chemin parmi les îles dispersées de l'archipel de l'insomnie. Dans la demeure ancienne, votre reflet se dérobe. Les miroirs sont voilés, les fenêtres obscures. Les couloirs ne mènent plus aux chambres d'insouciance. Les murs ne scellent plus les rencontres furtives. Reste l'écho des rires révolus. Reste l'ombre des rêveries fragiles et des espoirs inactuels. Reste le spectre de cet avenir vers lequel nous allions. Amis, je n'aime pas ma vie sans vous. Vous, oublieuse de nos joies et de nos peines, vous, libérés de cet amour qui était nôtre, vous, libres en cet oubli de nous fours partagés. Je n'aime pas cette vie devenue mienne, puisqu'ainsi vous en avez décidé, cette vie qui lentement se désavège, lentement se défait. Votre absence fait de chaque jour une rivière lente, aux grises du chagrin dérisoire et du regret de vous. Amis, je dois apprendre maintenant à découvrir ce paysage déserté, ces heures sans visage, à feindre de m'y habituer. Je dois apprendre à vivre sur la terre de vos mots refusés, de vos sourires disparus, de votre voix muette. Désormais et à jamais, adieu à vous, ma très secrète et très aimée, ma très lointaine amie.
Voilà. Magnifique poème d'amour.
Qui c'est qui disait d'amour, d'amour de la part de celui qui écrit et de désamour de celle à qui ce poème s'adresse.
Les poèmes les plus beaux sont les plus désespérés.
On peut dire ça. Et justement, à propos d'amour, là on avance dans le recueil. Et c'est l'évocation des jours heureux qui ont précédé les jours malheureux. Oui. C'est un poème à rebrousse-temps, en quelque sorte, qui veut absolument ressusciter le souvenir. Est-ce qu'il y parvient ou pas? Ce n'est pas à moi de le dire.
En tout cas, le lecteur y parvient. Pas de problème.
Oui. Merci. L'amour que j'ai pour vous, aimé, me tient lieu de parole. Il tremble dans ma gorge et trébuche sans fin sous le regard des autres. Ces autres que muettement je plains de ne pas vous aimer. Vous êtes le remords de chaque jour, la passagère du silence, et mystérieusement pourtant vous êtes la raison de traverser ce jour. Et le dernier poème de la dernière page de ce recueil, et là on peut dire que la boucle est bouclée, et justement, mes souvenirs ont bouclé leur bagage et déchiré leur album de photos. Ils ne me disent pas le moindre au revoir, et souriant se détournent et s'en vont, emportant avec eux les mots à jamais ignorés de cette lettre inachevée, ce que je renonce à vous écrire.
Oui.
La lettre ne sera jamais écrite. Pourtant, elle est peut-être en surrecueil.
Oui,
moyen de surrecueil,
c'est peut-être une lettre pour moi. Ce recueil, c'est la lettre.
Merci.
Et il est beaucoup mieux qu'une lettre. Aucune lettre n'atteindrait ça. Enfin, je ne crois pas.
En tout cas, ce recueil a suscité beaucoup de commentaires, beaucoup d'échos, et ceux qui ont bien voulu en parler évoquent Jouer Bousquet.
Oui. Moi, j'ai évoqué, puisque j'ai fait une émission là-dessus, j'ai évoqué Alain Borne.
Bien sûr, bien Alain sûr, Borne. Alain Borne. Oui. Le poète de Montélimar et du monde entier. C'est un de mes poètes préférés. Il est malheureusement trop méconnu.
Oui.
D'autres personnes en parlaient, de René Dicadou, voire même d'Éluard ou de Desnos. Ce sont des références écrasantes.
Non.
L'un des lecteurs de ce recueil a dit chaque poème... L'ensemble de ces poèmes est un collier de perles. Chaque perle peut être détachée et vivre de façon indépendante, mais néanmoins, le collier existe du début à la fin. Bon, pourquoi pas. Une personne à qui j'ai adressé ce recueil qu'il a lu m'a répondu par un seul mot. Merci.
Ah oui. D'accord. Bien. J'espère que c'est la bonne personne. Alors, cette rive, poème de Pierre Maubé, cette rive poème, donc de Pierre Maubé, aux éditions Les Cahiers d'Ilador, à lire absolument. Alors, un très beau, très beau, très belle idée de cadeau pour son ami ou son ami eux.
Ou pour soi-même.
Son amour, voilà. Ces poèmes d'amour, donc il y a un très beau cadeau à faire. Donc,
merci beaucoup. Voilà. Je précise que Illador, c'est le mot catalan pour désigner l'île de Majorque, et c'est un éditeur parisien qui a un site, le site d'Illador, avec deux L. Ça peut se prononcer aussi à la française, il l'adore.
Oui.
Mais je n'ai pas fait exprès, du tout. Et donc, si on va sur ce site-là, on peut commander ce recueil. Mais il peut également être commandé de n'importe quelle librairie.
Librairie, bien sûr. Merci beaucoup, Pierre Maubé.
Merci à toi,
Christian. Claude et moi, nous vous souhaitons une excellente semaine à l'écoute de Radio Occitanie. Et nous vous disons à la semaine suivante. À Dijat.